Ça fait partie du message d'aujourd'hui parce que le thème du sujet aujourd'hui, c'est « Soyez rafraîchis et bénis dans l'évangélisation ». On va voir un autre aspect du rafraîchissement de Dieu, parce que on est basé toujours dans Actes au chapitre 3, le verset 19 et 20, qui nous demande de se repentir, de se convertir pour que nos péchés soient effacés. Puis là, il va venir des temps de rafraîchissement qui vont venir de la part du Seigneur. Puis ces rafraîchissements-là, c'est toutes sortes de bénédictions que Dieu va nous accorder dans notre vie. Des bénédictions qui vont nous faire du bien. On va en avoir des bénédictions, mais qu'on soit rendu l'autre bord. Mais déjà, présentement, ici sur cette terre, on peut ressentir les bénédictions de Dieu. Ils vont nous être donnés si on rentre dans ce qui est écrit là. On va voir aujourd'hui un autre aspect où ce que Dieu va nous bénir déjà dans cela. Les rafraîchissements pendant puis après le travail d'évangélisation. Savez-vous que Jésus, lui, il se sentait très béni de faire la volonté de son Père puis d'accomplir son œuvre. On voit dans Jean 4, 34 et 35, ça nous parle de Jésus qui est en train de dire quelque chose à ses disciples, leur faire comprendre une vérité. Il dit, ma nourriture, c'est Jésus qui dit ça, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est sûr que ça ne nourrissait pas physiquement, comme pour manger puis avoir faim. Il parle de d'autres choses, là. Il parle de nourriture spirituelle, quelque chose qu'il remplit, qu'il fortifie, qu'il valorise, qui fait du bien, quand il est en train de faire la volonté de son Père. Ça, c'est dans tous les sujets de ce que Dieu nous demande dans la Bible d'obéir. Ça bénit le chrétien qui obéit. Mais dans ce moment-là, dans ce contexte-là, où ce que le Seigneur a dit ça à ses disciples, c'est quand il est en train de lui parler de l'évangélisation. L'autre verset après, il dit, « Ne dites-vous pas qu'encore 4 mois jusqu'à la moisson, voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » C'est déjà le temps de la moisson. C'est déjà le temps d'aller récolter les âmes, d'aller travailler au salut de ceux qui nous entourent. Ça fait partie de la mission de Dieu pour nous. Mais Jésus, il dit, ma nourriture, c'est quand je suis en train de la faire, la mission. En train de travailler à l'évangélisation dans ce sujet-là. C'est aussi quand il est en train de guérir ou prêcher. Mais dans le contexte qui est là, c'est quand Jésus évangélise, ça le nourrit, ça le bénit, ça le fortifie, ça y fait des rafraîchissements, ça y fait du bien. On va le voir plus loin. Il y a une bénédiction, puis un accompagnement de puissance pour ceux qui prêchent le royaume de Dieu. Il y a des promesses pour cela, que Dieu va bénir, puis il va accompagner les gens avec sa puissance quand ils sont en train de travailler à ramasser les âmes. Il y en a des versets qui parlent dans ce sens-là. Les miracles qui vont accompagner ceux qui ont cru, puis en mon nom, ils vont chasser des démons, puis ils vont faire des guérisons, puis il y a toutes sortes d'affaires qui vont se produire. Jésus l'a enseigné aux 70 disciples, cette idée-là. Jésus avait envoyé 12, puis avec la puissance, puis ils ont été. Après, il a envoyé 70 évangélistes. Des gens qui étaient équipés avec ce que ça prend pour aller évangéliser. Dans Luc au chapitre 10, le verset 1, ça dit, « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. » Ça parle, ce verset-là. Premièrement, on voit que Jésus, il équipe des gens pour pouvoir les envoyer évangéliser. Mais il les a envoyés où? Il les a envoyés dans des endroits où ce que lui-même Jésus devait aller. Fait que même 2000 ans plus tard, quand quelqu'un est en train d'évangéliser, il est sur un coin de rue à quelque part en train d'évangéliser, il est à l'endroit où ce que Jésus fallait qu'il aille évangéliser. Quand on sort pour faire de l'œuvre d'évangélisation, on accomplit la volonté du Père, puis on est en train de faire l'œuvre que Jésus était pour aller faire s'il arrêtait à notre place. Quand on est là en train de le faire, t'es à l'endroit où Jésus devait y aller. Fait que lui, il pouvait pas se splitter en 70 personnes. Il a envoyé les 70, 2 par 2, 35 endroits différents, louches. C'est toutes des places que Jésus a arrêté, mais tout seul, ça aurait été long, puis il n'avait pas le temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il a envoyé du monde parler à sa place. C'est là, c'est des envoyés par Jésus en train de faire la volonté du Père que Jésus prenait plaisir de faire. Ça en était pour lui une nourriture d'aller y aller, puis d'évangéliser. Puis ça, on peut demander à n'importe qui y va faire de l'évangélisation. Y a-tu des bénédictions quand t'es en train d'évangéliser? Y a-tu quelque chose qui se passe? Tu te sens-tu? Comment tu te sens quand tu y vas? Puis la plupart vont dire, on se sent super bien, tout le monde est dans la joie. À part, il peut arriver des moments difficiles, mais en général, t'as vécu des affaires avec des gens, puis c'est... qui est la bénédiction de Dieu qui va te fortifier. Jésus, il a demandé à ses disciples qu'il a envoyé, les 70, il leur a demandé de prier avec les gens pour les guérir et de prêcher le royaume de Dieu. On voit ça dans Luc au chapitre 10, le verset 9. Il leur a dit, guérissez les malades qui s'y trouveront, puis dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Comment se fait que le royaume de Dieu s'est approché de ces gens-là? Mais parce que pendant que toi, tu es là, dans la position que Jésus aurait dû être là, t'es le royaume de Dieu, t'es en train de présenter le royaume de Dieu. Les gens qui sont là, c'est des ambassadeurs du royaume de Dieu, des gens qui vont être au-devant pour aller le dire que le royaume de Dieu s'est approché, puis lui expliquer les affaires. Mais aussi, Jésus a dit « guérissez les malades ». Ça veut dire qu'il faut pas être gêné de prier pour les gens quand vous êtes en train d'évangéliser. Mais le mot guérir que là, dans le grec, c'est guérir, c'est aussi soigner. Ça veut dire soigner, ce mot-là. Apporter un remède ou restaurer la santé. Ça veut dire que ça peut être dans l'aspect de la guérison miraculeuse, mais ça peut être aussi dans l'aspect d'aider les gens à changer de quand ils sont malades, là, ils ont besoin d'être soutenus, d'être soignés, d'être traités, de leur faire du bien. Mais cet aspect-là est aussi là dans ce mot-là. Fait que tu t'en vas là à l'endroit où ce que Jésus devait aller, puis tu es là en train d'aider les malades. En priant, puis des fois, c'est des soins que ça prend. Les guérisons sont pas toujours instantanées. Les 70 disciples, quand ils sont revenus de leurs évangélisations, mais ils sont revenus avec joie. Ils étaient tout excités. Ça crée de la joie quand tu vas évangéliser. Tu reviens tout excité. Ils sont revenus avec joie. Puis là, ils racontaient leur victoire contre la puissance des ténèbres. Parce qu'ils ont dit, on voyait Satan descendre du ciel comme un éclair. Ils étaient tout excités de voir que ça marche quand tu pries pour les gens, les démons sortent. Puis il y a des gens qui sont guéris, puis ils ont vu en vision Satan tomber, prendre une débarque, puis tomber du ciel. C'était la puissance de Dieu qui accompagnait ceux qui évangélisent. Ça fait partie des bénédictions qui vont remplir les évangélistes de joie. Quand tu ressors de là, avoir vécu une couple d'expériences à chaque fois que tu y vas, tu es toujours joyeux, normalement. Il y en a des fois, ils peuvent trouver ça dur et triste, puis ça ne le tente pas. Mais quand tu le fais parce que tu aimes le Seigneur, puis tu crois en ton rôle que tu as à faire, puis tu sais que tu es là pour être à la place, aller où ce que Jésus aurait dû aller, puis faire ce que Jésus aurait dû faire, tu es là à sa place pour aller prier, prendre soin des gens, leur prêcher leur royaume, puis tu vois des miracles, puis tu vois Satan tomber du ciel, ça veut dire qu'il y a des délivrances, tu reviens dans la joie. C'est une des bénédictions que Dieu donne, un temps de rafraîchissement que Dieu donne pour les évangélistes. le verset qui parle de ça, qui sont revenus avec joie dans Luc 10, 17. Les 70 revinrent avec joie en disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Il y avait de la joie là d'expérimenter qu'eux autres parlent dans le nom de Jésus, puis se produit le même miracle que quand c'était Jésus qui est en train de parler. Gloire à Dieu. Il y a de quoi se réjouir là-dedans. Puis dans cet événement-là, c'était pas fini. Il s'est passé encore un autre événement qui s'est produit à ce moment-là. C'est au verset 21. Dans Luc 10, 21. Jésus, lui aussi, il a reçu une explosion de joie. À ce moment-là, quand il a entendu les autres qui se réjouissaient d'évangéliser, lui, il a eu une explosion de joie. Il a tressailli de joie en voyant les premiers disciples revenir de l'évangélisation avec des témoignages puissants. Ça l'a réjoui, Jésus. Dans Luc 10, le verset 21, il dit, à ce moment même, quand Jésus est en train de voir ses disciples qui étaient tous dans joie de se réjouir, de marcher dans la puissance de Dieu, Jésus, il a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Lui-ci, il en vivait des moments de bénédiction de la part de son Père. Quand il disait, tantôt, que ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et accomplir son œuvre. Il envoie ses disciples, les disciples reviennent dans la joie, puis lui, il a tressailli de joie. Une explosion de joie, Jésus, par rapport qu'il voyait ses disciples se réjouir, puis lui, ça l'a réjoui. C'est encore la même chose aujourd'hui. Quand les disciples vont évangéliser, puis qu'il se passe de quoi, puis qu'on est dans la joie, ça réjouit le cœur de Jésus. Puis là, il a dit à son Père, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Vous savez pourquoi qu'il appelle ses disciples des enfants? Mais c'est parce que c'est des gens qui ont obéi à ce que Jésus a dit. Quand on marche dans la voie de Dieu, dans la volonté de Dieu, il dit, faut qu'on devienne comme des enfants. Faut que tu sois prêt à faire ce que ton Père t'a dit. Notre Père Céleste nous dit, go, ben on y va. Puis c'est là qu'il va se produire des affaires. Puis c'est les ceux qui se pensent bien matures, dans la vie, bien intelligents, tu lui diras ça, puis ils veulent pas y aller. Ils veulent pas se soumettre. Ils résistent. Mais c'est ça la différence. Puis ça réjouit le cœur de Jésus quand il voit du monde qui va travailler dans son œuvre. Ça bénit Dieu de qu'on y ait été. Ça bénit Dieu aussi quand qu'on se réjouit d'y avoir été. Puis on va voir tantôt que ça bénit aussi Dieu quand il y a des fruits. Le service de ceux qui sortent pour répandre le message du salut est très important aux yeux de Dieu. Le service dans l'Église est important, mais le service en dehors de l'Église est aussi important. Parce que Jésus a envoyé faire les deux, la grande commission, elle comprend deux avenues. Il dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira pas sera condamné. Puis là, il dit, et là, il a dit l'autre aspect aussi, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Fait qu'il y a une dimension d'enseignement, puis d'amener les gens dans l'obéissance. Mais en premier, il y a la dimension d'aller chercher les brebis. Ça fait, la grande commission est en deux parties. Fait que, il est important qu'il y en ait des gens qui se lèvent pour aller évangéliser. Une église qui n'a pas personne pour qui va évangéliser, là, est handicapée. C'est comme si c'était une personne qui marche rien qu'avec une jambe. Mais une église qui est en vie, c'est une église qui marche dans tout ce que Dieu nous demande. Ces deux grands aspects-là, ça fait partie du plan de Dieu. C'est important que ça soit accompli. Puis Jésus, il s'en réjouissait. Puis il dit, il se nourrissait de tout cela, d'obéir à son Père. Fait que Jésus enseignait, mais il aussi évangélisait. Comme l'apôtre Paul le dit, parce qu'il faut le réaliser comment c'est important, là. Comme l'apôtre Paul le dit, il est impossible que les gens puissent croire s'ils n'entendent pas parler de l'Évangile. On voit ça dans Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Puis comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Fait que s'ils n'en ont pas entendu parler, ils ne pourront pas se convertir. On ne pourra pas dire après, « Oh, le peuple québécois, c'est un peuple qui est endurci, puis ils ne se convertissent pas. » Mais après, la question qu'il faut se poser, « As-tu été les évangéliser? » Ils se convertissent pas, ils sont endurcis peut-être, mais ils n'ont-ils entendu parler de la vraie doctrine de Dieu? C'est ça qui est important, qu'il y ait des gens qui se lèvent pour aller le dire, c'est quoi que Dieu veut? Puis là, il y a peut-être plus de monde qu'on pense qui vont répondre au message. Puis comment est-ce qu'ils vont en entendre parler s'il n'y a personne qui prêche? Ça prend des prédicateurs dehors, puis ça en prend en dedans. Puis c'est ça qui fait la joie du Père. N'oubliez pas que dans la Bible, ça nous le mentionne, c'est pas pour rien que ça nous mentionne qu'est-ce qui est écrit là. Dieu trouve beau de voir les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Il trouve ça beau de voir les pieds de ceux qui se lèvent pour aller annoncer le message. Dans Romains 10, 15, c'est une continuité de ce qu'on est en train de lire. Il dit comment qu'il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ça veut dire que Dieu trouve ça beau de voir du monde se lever pour aller évangéliser. On se demande des fois comment, qu'est-ce que je peux faire plaisir au Seigneur? Mais lève-toi, prends des pamphlets, puis va y passer. Ou va cogner aux portes, parle de Jésus. Ou écris des messages dans le journal, ou en écrisant sur Internet, ou évangélise, annonce la parole. Puis ça, Dieu trouve ça beau. Si on veut être vu comme des belles personnes dans le Seigneur, faut évangéliser. Amen. Puis ça dit aussi, comment est-ce qu'il va y avoir des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comment est-ce qu'on peut faire pour envoyer des prédicateurs? Sinon, de prier pour eux autres, puis aussi de fournir ce que ça prend pour évangéliser, payer les pamphlets, payer les affaires. Si une église n'a pas de budget pour l'évangélisation, c'est pas normal. C'est comme une compagnie qui produit des tentes, mais il y a personne qui vend les produits sur la route à des compagnies. Fait que t'en vends pas de tente. T'as beau n'en produire des belles, si t'as pas de représentants sur la route, t'en vendras pas de tes tentes. Ça prend quelqu'un qui appelle les autres compagnies ou les particuliers, puis qui présente son produit. Mais dans la vie, c'est comme ça. Faut qu'on envoie des gens avec ce que ça prend pour que la parole soit répandue. Ça fait partie du plan de Dieu. Oui, les pieds sont beaux, mais ces beaux pieds-là, ils ont besoin d'être soutenus. Ils ont besoin d'être envoyés, ils ont besoin de prières, puis ils ont besoin aussi de tout ce que ça prend financièrement pour pouvoir le faire. Amen. Fait que c'est normal qu'une église paye des choses d'évangélisation, qu'on se planifie un budget, puis qu'on peut même le défoncer, ce budget-là, c'est pas grave. On peut même le grossir, ce budget-là, c'est encore mieux. Il y a des églises là qui sont concentrées, là, c'est leur mission pour eux qui se sont données de pouvoir soutenir des missionnaires dans le monde. Puis quand il y en a là qui soutiennent 50 missionnaires, 100 missionnaires, puis c'est des églises que tout leur argent va là-dedans. C'est beau. Parce que ça fait partie du plan de Dieu. Dieu trouve ça beau. Il y a plusieurs passages qui nous parlent de la joie pour Dieu et les moissonneurs. Une joie là, qui est produite lorsqu'un homme accepte le Seigneur. Quand il y a des personnes qui acceptent le Seigneur, des personnes qui étaient perdues, qui désobéissaient à Dieu, qui offensaient Dieu, là tu leur parles de Jésus, puis ils se convertissent. Ils acceptent Jésus, puis là leur vie est changée par Jésus, puis là ils rendent gloire à Jésus dans leur vie, puis là eux autres aussi ils vont se lever pour aller travailler pour Jésus, puis ils vont proclamer le nom de Jésus. Y a-tu de quoi de beau là-dedans? Oui, c'est super beau. Dieu aime ça, mais aussi les moissonneurs, ceux qui travaillent à la moisson, aiment ça aussi. On va voir quelques passages qui nous parlent de cela. Il y a un des passages, ça nous parle de la joie de Dieu dans le ciel, devant les anges de Dieu. La joie de Dieu quand une personne se convertit. Une! Mais il est autant joyeux s'il y en a 10, puis il est encore plus joyeux s'il en a 100. Mais Dieu se réjouit. Dieu se réjouit de voir les hommes accepter Jésus. Si on veut faire plaisir au Seigneur, allons semer la parole de Dieu, puis sauvons les hommes, parce qu'à chaque âme qui accepte le Seigneur, il y a un party dans le ciel. Ça nous mentionne dans la parole. Dans Luc, le chapitre 15, verset 8 à 10, Jésus nous a expliqué cela dans une parabole. Il dit, « Ou quelle femme, ça a 10 drachmes, des drachmes, c'est des pièces de monnaie, puis elle en perd une, elle allume une lampe, elle balaye la maison, puis elle la cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu. C'est qui est devant les anges de Dieu? C'est Dieu. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Un seul pécheur qui se repent. On voit là-dedans le travail, comment est-ce que... C'est une parabole pour nous expliquer le travail de Jésus, ça, le travail de Dieu, qui court à partir. Il y a un autre passage qui parle de... Il va courir après sa brebis qui s'est perdue. Il cherche les brebis, il cherche, là, dans l'exemple, il cherchait une pièce de monnaie qu'elle avait perdue. La joie que ça y procure, là, on ne le comprend pas encore, mais dès qu'on arrive l'autre bord, quand il dit « rentre dans la joie de ton maître », c'est parce qu'on l'a réjoui. Sinon, si on n'a pas réjoui Dieu, il va nous regarder avec des yeux sévères, puis il n'est pas content. Mais si on veut qu'il soit content, puis qu'il ait de la joie, puis il nous accueille avec cette joie-là en nous regardant, mais il faut y aller, travailler à l'œuvre d'évangélisation, puis dès qu'on arrive l'autre bord, on va avoir réjoui le Seigneur d'avoir fait ce qu'on devait faire. Amen. Le travail du Seigneur, c'est de faire tout ce qu'il peut pour pouvoir aller la rechercher, ce brebis-là. Il nous utilise pour y aller, parce qu'on va à l'endroit où ce que Jésus devait aller. À l'endroit où ce que tu es en train d'aller chercher la brebis perdue, c'est Jésus qui est supposé d'y aller. Quand tu es là, c'est Jésus qui est en train d'aller chercher sa brebis. Puis quand qu'elle va, tu vas l'avoir amenée à la repentance avec en priant pour elle puis en y expliquant les affaires, mais ça va réjouir le cœur de Dieu. Il y a aussi un autre passage qui parle de la joie des semeurs puis des moissonneurs. C'est qui ça, les semeurs puis les moissonneurs? C'est que ça à terre, quand t'évangélises puis tu parles du Seigneur, tu répands la parole de Dieu. T'es un semeur. Tu sèmes. Tu répands la parole de toutes les façons. Toutes les façons sont bonnes pour répandre la parole. Du bouche à oreille, des pamphlets, dans le journal, à la télévision, à la radio, sur Internet, partout de répandre la bonne nouvelle. Ça, c'est un semeur. Tu sèmes la semence de Dieu. La parole de Dieu, là, les versets que tu dis, là, je l'ai expliqué dans une autre étude, que c'est une puissance de Dieu, ce qu'on sème. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quand les gens vont écouter ce message-là, ils vont être saisis, ils vont être touchés, ça va pénétrer leur cœur, ça va pénétrer leur esprit, puis ça dit que ça rentre dans leur âme, puis dans leur corps, ça va les transformer, les attirer, puis ils vont donner le vœu au Seigneur. C'est puissant, c'est la parole qui sauve, c'est pas nous. Nous, on sème la parole. Le reste, c'est Dieu qui fait le travail, le Saint-Esprit convainc. Mais le semeur, celui qui sème, et celui qui moissonne, parce que là, le moissonneur, c'est celui qui ramasse les âmes. Il y a eu des évangélistes, des fois, des missionnaires qui ont prêché pendant 40 ans dans une mission, puis il n'y a même pas un homme qui a accepté. Il y a un autre qui arrive tout de suite après lui, puis il y en a 100, 200, 300 qui acceptent le Seigneur. Mais le terrain avait été labouré auparavant par les semeurs. Mais l'autre, il vient, puis il moissonne. Mais Dieu voit le travail de tous là-dedans. Il voit pas juste celui qui a remboursé l'âme. Peut-être que vous allez évangéliser aujourd'hui, puis vous allez rencontrer quelqu'un, il va accepter le Seigneur, mais ça fait déjà 10 fois qu'il en entend parler dans le cours de sa vie. Fait qu'il avait déjà reçu la semence de Dieu. Toi, t'es ta rose. Tu y ressèmes d'autres semences, puis ta rose. C'est ça qui est l'idée dans un autre verset. Il accepte le Seigneur. On n'a pas tous les mérites, parce que Jésus fait longtemps qu'il travaille dans cette personne-là. Tu es à l'endroit où Jésus aurait dû aller lui-même. Tu es là pour le représenter, puis là, tu y parles, puis tu moissonnes l'âme. Regardez bien ce que ça dit, la joie des semeurs puis des moissonneurs. Dans Jean 4, le verset 36 à 38. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Il amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Ça veut dire que celui qui a ramassé la brebis, il est en train de se ramasser des fruits pour la vie éternelle, mais ils seront pas juste pour lui, ces fruits-là. Celui qui a semé et celui qui a moissonné vont se réjouir ensemble. La joie du Seigneur va être là dans tout le travail. Celui qui entend qu'un tel s'est converti, puis il a déjà évangélisé cette personne-là, mais c'est pas lui qui l'a réussi, que finalement qui l'a amené au Seigneur. Tu te réjouis autant de voir que toi, tu as déjà parlé, que l'autre y a parlé, puis qu'il accepte. Puis ce fruit-là va être pour les deux. Puis s'il y en a 5 qui ont travaillé, mais il y en aura 5 qui vont se réjouir, puis ça va être le Seigneur qui va donner ses rafraîchissements et ses bénédictions. La joie du Seigneur dans la récolte. Ça nous dit, dans verset 37, « Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne. » Puis là, il dit au verset 38, « Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, puis vous êtes entrés dans leur travail. » Ça veut dire que depuis 2000 ans, il y a du monde qui sème puis qui moissonne. Depuis 2000 ans. Puis si aujourd'hui, on n'accepte pas aujourd'hui, moi ça fait 40 ans, quand j'ai accepté le Seigneur, il y a une personne qui me semait la parole. Puis là, j'ai lu la Bible, puis après ça, je suis allé dans une église, puis il y a d'autres personnes qui m'ont semé la parole, puis finalement, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Toutes les personnes qui ont participé peuvent se réjouir, puis ils vont se réjouir aussi au jour où la joie du Seigneur va être pour eux. C'est un peu comme le chant qu'on a chanté tantôt, qu'on va voir un jour groupés autour de Jésus ceux qu'on aimait autrefois sur la terre. Puis ça va être spécial parce que là, il va nous regarder, puis ça va être juste le fait qu'il nous sourit puis nous donne sa joie. On va être au ciel avec le Seigneur, comme dans le ciel. Ça va être le ciel pour nous. Un ciel sans Jésus, ça n'existe pas. C'est de voir Jésus qui est là puis qui nous bénit, ça va être spécial. Mais là, il dit, le travail en attendant, sentez-vous pas diminué si vous êtes des semeurs, ou si vous sentez-vous pas plus fier que les autres dans le sens orgueilleux, puis pensez que c'est vous qui avez réussi à amener une personne au Seigneur. Des fois, c'est peut-être le dernier mot que vous avez dit qui l'a convaincu, mais ça fait des années que le Seigneur travaille dans les personnes, par un et par l'autre, pour ce que la semence rentre, puis qu'il arrive au point que c'est le temps de le cueillir. Fait que la bénédiction est à tout le monde. Amen.
Amen.
Il y a un autre passage qui nous parle de la joie des disciples lorsqu'ils sont remplis du Saint-Esprit dans l'évangélisation. Parce que tu vis toutes sortes de temps quand tu es en train d'évangéliser. Tu as des temps difficiles des fois. Mais c'est quoi qui va faire que la personne a encore le courage d'y aller, puis qui se sent heureux, puis qui se sent bien de y aller? Mais c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire en chacun de nous? Dans Actes au chapitre 13, versets 49 à 52, ça nous dit, « La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. » Dans cette période-là, il y avait une grande multitude, beaucoup de chrétiens, je ne peux pas dire combien, qui partaient et qui allaient répandre la bonne nouvelle partout ce qui passait. Puis dans le pays, la bonne nouvelle s'est étendue à grandeur du pays. Mais les Juifs excitèrent contre les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville et provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas. Puis ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds. puis il a l'air à icône. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Voyez-vous, dans le temps de l'évangélisation, tu vas en avoir de l'opposition. Tu vas avoir du monde qui se soulève, des persécutions, du monde qui dit des bêtises, du monde qui vont t'offenser, du monde qui vont vouloir t'enfarger, qui vont vouloir arrêter ce que tu fais. Ça pourrait décourager tout le monde, en temps normal, de dire, moi, je retourne plus là. C'est une gang de sauter là-bas, ils veulent lui faire du mal. Mais les disciples, ils ont persévéré dans ce qu'ils avaient à faire, puis ils disent que malgré l'opposition, puis les persécutions, puis les problèmes, ils étaient remplis de joie puis du Saint-Esprit. Ça parle encore de la bénédiction que Dieu donne à ceux qui sont en train de servir dans l'évangélisation. Leur force, c'est le rafraîchissement qui vient de la part du Seigneur. La joie du Seigneur, être rempli du Saint-Esprit, ça fait plaisir, puis ça redonne du courage, puis tu continues, tu te laisses pas arrêter. Il y a une fois qu'on voit dans les Actes que Paul, il a été lapidé. Lapidé, c'est lancer des roches, toi, jusqu'à temps que tu meurs. Puis ils l'ont laissé à terre comme mort. Il s'est relevé de là parce qu'il n'était pas encore mort. Imaginez bleu et les contusions qu'il devait avoir dans la face partout, parce que je l'ai déjà vu ça. Il lance des roches là, sa tête pour le tuer. Il est à terre, puis il continue à lancer des roches jusqu'à temps qu'il meure. Il est laissé à terre, il a mangé une dizaine de roches sa tête. Des bleus partout, puis tout a ramoché. Il s'est relevé là de là, puis le lendemain, il est encore en train d'évangéliser. Tu le vois dans les Actes. C'est vrai. Qu'est-ce qui anime un gars comme cela? Mais c'est la joie, puis d'être rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas un homme saint d'esprit normalement, ordinaire, normalement constitué, qui aime ça se faire massacrer comme ça. Mais lui, saisi de la vision de servir le Seigneur, puis il t'a rempli du Saint-Esprit, puis de la joie du Seigneur, continue à aller travailler pour le Seigneur. Lui-ci, il aurait pu dire, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. Savez-vous que l'apôtre Paul faisait des vœux? Un vœu, là, c'est quelque chose sincèrement que tu désires, là. Tu mets ça devant le Seigneur. C'est comme un sujet de prière. Lui, en faisant un sujet de prière, ses vœux. Puis un de ses vœux que tu vois dans la parole de Dieu, c'est de voir ceux de sa race qui soient sauvés. Ça nous dit dans Romains 10, 1, « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Lui, son vœu, c'était pas « J'aimerais savoir une roulotte pour aller en camping. » C'était pas un vœu pour lui, là. Ou un camper, ou avoir une meilleure canne à pêche, ou avoir un meilleur fusil pour aller à la chasse, ou bien pour avoir un beau char, peu importe, c'est pas ça ses vœux, lui. Son but, son vœu, puis c'est à sa prière, c'est de voir ceux de sa race qui soient sauvés, que les Juifs puissent se convertir au Seigneur. C'était quelque chose qu'il priait pour cela. C'était dans ses sujets de prière, puis il lâchait pas. Quand c'est un vœu, c'est quelque chose de précis que tu veux, puis que tu désires de tout ton cœur. Lui, il avait le désir de voir ceux de sa race sauvés. Ça démontre comment est-ce qu'il était saisi, rempli de la vision du Seigneur pour aller évangéliser. Imaginez la joie que nous éprouverons, qu'on éprouvera lorsqu'on verra qu'avec notre repentance puis notre retour à Dieu, en s'impliquant dans son œuvre, que Dieu sauve les gens de notre pays. Pensez-vous qu'on sera pas heureux de voir cela, tout le monde qui se convertit, là, que le monde vienne au Seigneur, puis que c'est pas une église qui s'ouvre, c'est des églises qui s'ouvrent dans toutes les villes, dans tous les villages, puis qu'il y ait une multitude qui soit sauvée, ça sera une joie incroyable, on n'en reviendra pas, puis on la racontera à tout le monde de voir ce que Dieu a fait ici et là pour pouvoir amener ces âmes-là au Seigneur. Quelle joie aurions-nous de voir notre pays se tourner vers Dieu? Lui, Paul, il avait ce désir-là de voir les siens se convertir à Dieu. Puis nous aussi, on peut l'espérer, de voir notre pays se convertir. Puis ça, dans 2 Chroniques, le chapitre 7, 14, là, ça le dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, puis se détourne de ses mauvaises voies, Dieu dit qu'il va nous exaucer des cieux, il va pardonner nos péchés, puis il va guérir notre pays.
Amen.
C'est une promesse qu'on peut attendre du Seigneur. De voir la multitude d'âmes qui pourraient être collectées. On est 30 millions ici dans le Canada. Puis que les gens se convertissent, là, ça serait extraordinaire. On a le droit de l'espérer, ça fait partie des promesses de Dieu. Un beau psaume qu'on va regarder ensemble. Il est court, mais c'est un super beau psaume de réjouissance. Lorsque l'Éternel ramènera les captifs de Sion. C'est dans le contexte que Dieu ramène ceux qui étaient éparpillés dans le monde, puis dans le péché, puis partout. Puis quand Dieu ramène pour les ramener à Sion, c'est un symbolisme, sauver ces âmes-là. Ils ont fait un cantique là-dessus, dans l'Ancien Testament, dans le psaume 126, le verset 1. À partir du verset 1. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. C'est dans le contexte que Dieu ramène les gens comme si nous autres, aujourd'hui, il sauverait les gens pour les ramener au Seigneur. Il dit, quand c'est arrivé, quand il les a ramenés, là, il dit, nous étions comme ceux qui font un rêve. Ça veut dire, tu as beau le voir de tes yeux, là, mais là, tu vas dire aux autres, pincez-moi pour voir si c'est vrai, là, qu'est-ce que je vis là. Tu viens d'avoir toute ta famille, tous tes amis se convertir, tes voisins, tes compagnons de travail, tes compatriotes, le monde qui sont ramenés par Dieu dans Sion. Que tout ce beau monde-là soit sauvé. T'es comme dans un rêve. On aurait de la misère à le croire. Mais Dieu, il l'a déjà fait de sauver, de ramener des multitudes, puis il peut le faire encore, puis il l'a promis qu'il le fera encore. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux qui ont vécu ça dans cette période-là, au verset 2? Alors notre bouche était remplie de joie. Quand tu vois tout le monde se convertir, ta bouche est remplie de joie. Elle veut s'exciter de voir le Seigneur faire cette œuvre-là de ramener les tiens. Puis là, ils vont dire parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. On va péter le feu, on va être excités de voir tout le monde venir au Seigneur. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. On est comme ça, c'est comme une prière de demander à Dieu de ramener les captifs. On en connaît plein encore qui sont captifs. Des gens qui n'ont pas encore donné vraiment le cœur au Seigneur, vouloir suivre le Seigneur. On peut en faire une prière puis dire au Seigneur, ramène nos captifs, Seigneur, comme les ruisseaux qui reviennent dans le midi. Puis là, il nous dit, au verset 5, celui qui sème avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Ça fait partie des rafraîchissements que Dieu donne. La réjouissance de la bénédiction de Dieu quand Dieu t'exauce puis amène dessus que tu as prié pour qu'il soit sauvé. Je finis avec un dernier verset. Persévérons dans le travail pour le royaume de Dieu, sachant que nous en porterons les fruits. 2 Timothée, chapitre 2, verset 6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Puis c'est notre mission d'aller porter la semence, de travailler, puis il va en avoir des fruits. Amen.
Amen.
Prions. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais dans nos vies. Mais merci pour tes belles paroles, Seigneur, qui nous emmènent à saisir ta bénédiction que tu veux nous donner dans le travail d'évangélisation. Merci de tes promesses, Seigneur. Nous les attendons, puis nous désirons voir les gens qui nous entourent venir au salut. Sers-toi de nous, Seigneur. Guide-nous dans ce qu'on a à faire pour être à l'endroit où tu veux qu'on soit, Seigneur, puis qu'on puisse voir ces âmes-là sauvées. Je te prie dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.